Valdo Pellegrin vient de publier « Montpellier, de savants en découverte » aux éditions Alcide, livre que nous avons présenté sur cette antenne, sur FM+, au mois d'octobre. En 18 épisodes, du square Planchon à l'école supérieure d'agronomie Place Viala, Valdo Pellegrin traque médecins, chimistes, scientifiques qui font l'histoire urbaine de Montpellier.
Chers amis auditeurs, bonjour. Nous nous étions quittés la dernière fois au 17 rue de la Loge, sur la maison de Rondelet. Et nous allons continuer maintenant dans la rue des Trésoriers de France, qui se poursuit par la rue En Bouc d'Or. Un petit mot d'ailleurs sur cette rue En Bouc d'Or. En fait, à l'origine, elle s'appelait En Bocador. Le « en », ça signifie « monsieur ». Donc c'était la rue de Monsieur Bocador. Et petit à petit, ce « En Bocador » s'est transformé en « En Bouc d'Or ». Et dans la rue En Bouc d'Or, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel de Mans. Et vous vous souvenez que lorsque la faculté des sciences a été créée en 1810, elle a été placée dans un appartement de la rue Saint-Ravi, dans l'hôtel de Jacquet, où vraiment les professeurs étaient très à l'étroit. Donc la municipalité a proposé le premier étage de l'hôtel de Mans, qui se trouve précisément rue En Bouc d'Or. Mais cet étage était assez grand, mais la rue était par contre très étroite. Et donc en 1816, la faculté des sciences s'est installée là, mais en 1837, elle a dû quitter cette solution qui était provisoire et qui a quand même duré 21 ans. Vous savez qu'en France, le provisoire dure parfois très longtemps, pour partir rue Saint-Pierre. Donc ce sera un intermède, si vous voulez, dans l'histoire de la faculté des sciences de 21 ans. Et je ne vais pas m'attarder davantage sur ce court passage dans l'hôtel de Mans. Et si nous poursuivons notre visite en remontant la rue En Bouc d'Or, nous traversons la place Pétrarque et arrivons dans la rue de l'Aiguillerie. Et en tournant à droite dans la rue de l'Aiguillerie, au bout d'un moment, au bout de quelques mètres, nous arrivons à l'angle de la rue de l'Aiguillerie et de la rue de la Carbonnerie, la rue des marchands de charbon. Et l'angle qui fait l'immeuble plutôt qui fait l'angle s'appelle l'hôtel Guilleminet. Et nous sommes intrigués puisque à l'hôtel Guilleminet, qui est au numéro 31 de la rue de l'Aiguillerie, nous voyons au-dessus de la porte différentes sculptures qui représentent des instruments scientifiques. Il y a deux globes, il y a un rapporteur, il y a une équerre, il y a une règle, il y a un tube qui figure une lunette astronomique. Eh bien c'est en fait là que s'est installée en 1777 la Société Royale des Sciences. Alors revenons un petit peu en arrière à propos de cette Société Royale des Sciences. Vous vous rappelez qu'elle a été créée en 1706 à l'occasion précisément d'une éclipse de soleil totale à Montpellier. Les académiciens s'étaient installés 27 rue des Études, avec un petit jardinet qui était au pied de la tour de la Babote. Et puis dès 1713, ma foi, ils n'avaient plus assez d'argent pour payer le loyer de cette maison qu'ils avaient louée au 27 rue des Études. Donc les réunions se sont faites chez l'un ou chez l'autre des académiciens. C'était pas terrible, mais enfin, bon, ils ont vécu comme ça et ils ont continué à faire des observations, essentiellement dans l'hôtel Plantade qui se trouvait dans la Grand Rue, où M. Plantade avait un hôtel qui était presque en face, enfin c'était la maison natale d'Alfred Bruas, donc presque en face de la maison natale de Frédéric Basile. Et là, sur le toit, M. Plantade avait installé un observatoire. Et puis, il se trouve qu'un petit peu plus tard, M. Haguenau, qui avait fait construire un hôtel, l'hôtel Haguenau, qu'on peut visiter d'ailleurs lors des Journées du Patrimoine, qui se trouve en haut de la rue de la Merci, avec une entrée par la rue Clapiès, donc juste en contrebas du Pérou. Et M. Haguenau a accepté que les réunions a offert même un appartement de son hôtel à la Société Royale des Sciences, qui a pu ainsi être qu'il pendant un certain nombre d'années. Et puis à la mort de M. Haguenau, en 1776, la société espérait que l'hôtel lui reviendrait. Ça aurait été très bien. Et puis non, Haguenau, il a préféré léguer cet hôtel au fils d'un de ses cousins germains. Et la société a essayé d'acquérir la maison, mais il n'y a pas eu d'entente avec ce neveu de Monsieur Haguenau, ce qui fait que finalement on a cherché une autre solution. Et l'autre solution, elle est venue d'un prélat un petit peu extraordinaire, qui détonne un petit peu, c'est Monseigneur Richard Dion. Alors Monseigneur Richard Dion, il est le fils d'un Irlandais qui s'était mis au service du roi et qui était devenu général. Et ensuite, lui, il a fait des études à la Sorbonne, il est rentré dans les ordres, il a gravi toute la hiérarchie catholique et il est devenu archevêque de Narbonne. Et à ce titre, Monseigneur Dion était président des États du Languedoc. Et c'était un homme qui menait grande vie, mais qui en même temps a été assez visionnaire sous sa responsabilité. De nombreux ponts, de nombreuses routes ont été construites et il avait entrevu la nécessité de faire un cours public de physique et de chimie. Nous étions encore sous l'Ancien Régime. Il n'était pas question de créer une faculté des sciences, mais lui pensait qu'il fallait développer les sciences et que par conséquent c'était son idée. Et il pensait passer par le biais de la Société royale des sciences. Ce qui fait qu'il va aider la Société royale des sciences de différentes façons. Alors, d'abord, il va l'aider en faisant voter une subvention par les États du Languedoc. Ça, c'était une très bonne chose parce que nos académiciens avaient toujours des problèmes d'argent. Et en plus, vous vous rappelez qu'ils avaient construit sur l'atout de la Babote un observatoire. Et ils avaient une dette assez importante de 8000 livres. Et Monseigneur Dion, qui était un ami personnel de Louis XVI, lors de l'avènement de Louis XVI, a eu l'excellente idée de solliciter le roi en lui disant « Écoutez, Majesté, il faudrait peut-être aider la Société royale des sciences de Montpellier qui a une dette après la construction de son observatoire. » Et voilà que, pour fêter son avènement, eh bien Louis XVI a épongé la dette et il a donné très exactement 8400 livres à la Société royale des sciences à l'instigation de Monseigneur Dion. Mais ce n'est pas tout. Monseigneur Dion se dit aussi qu'il faut loger cette Société royale des sciences. Et c'est à ce moment-là qu'il va aider la Société royale des sciences à acheter l'hôtel Guilleminet qui se trouve, comme je vous l'ai dit il y a un instant, au 31 rue de l'Aiguillerie. Alors, il va falloir faire des travaux assez considérables. On fait appel à l'architecte, le célèbre architecte Jean-Antoine Giral. On va refaire complètement l'escalier. Il y avait un mur qui n'était pas très droit sur la rue de la Carbonnerie. Il va falloir rectifier ce mur qui faisait un jet sur plan. C'est toujours gênant d'avoir un mur qui n'est pas vraiment vertical. Et on va aménager cet hôtel pour la Société royale des sciences. Elle va réserver le deuxième étage et le rez-de-chaussée à la location, de façon à rembourser les emprunts qu'elle a dû quand même contracter, malgré l'aide de Monseigneur Dion. Et elle va se réserver le premier étage. Et dans le premier étage, il va y avoir une salle de réunion où les académiciens peuvent se réunir, une pièce qui va servir de bibliothèque, une pièce qui va servir pour les collections de coquillages, d'animaux, on fait toutes sortes de collections que possède la Société royale des sciences, et également une pièce pour les archives. Bien entendu, dans cette pièce, il va y avoir quelques ornements, il va y avoir un portrait de Louis XIV, puisque il est le fondateur de l'Académie, il va y avoir un buste de Monseigneur Dion, dont je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est passé, parce que n'oubliez pas qu'après, la Révolution va entraîner quelques désordres. Mais enfin, pour remercier Monseigneur Dion, il y avait donc un buste de cet éminent prélat. Et puis les choses ne s'arrêtent pas vraiment là, puisque Monseigneur Dion a toujours en tête qu'il voudrait qu'il y ait des cours publics de physique et de chimie qui se passent dans le cadre de la Société Royale des Sciences. Et c'est là que nous en arrivons à un homme très important dans notre région, un Lozérien qui est né à Nojaré, à côté de Mende, et qui s'appelle Jean-Antoine Chaptal. Jean-Antoine Chaptal est né dans une famille assez aisée, des agriculteurs de la région de Mende, et la tradition veut qu'en général ce soit le garçon aîné de la famille qui conserve la propriété et qui cultive cette propriété agricole, et en général les cadets soit font carrière dans l'armée, soit carrière dans les ordres religieux. Et notre jeune Chaptal, jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années, ben lui, il va garder les troupeaux. Et ensuite, on pense lui donner une certaine éducation. Alors, il va quand même à Mende, où il tombe sur un précepteur qui s'aperçoit qu'il apprend le latin avec une vitesse vertigineuse et que c'est un garçon très intelligent. Donc, on va l'envoyer ensuite à Rodez, où il démontrera des capacités assez extraordinaires dans la rhétorique et dans ce qu'on appelle les disputes, c'est-à-dire des confrontations entre deux élèves sur un sujet donné, qui essayent chacun de montrer le pour et le contre et de faire la synthèse de ce sujet. Et finalement, il va aller à Montpellier. Il y a toute une organisation, si vous voulez, de la part des gens de la Lozère. Lorsque un des leurs part faire des études, eh bien, il y a toujours des Lozériens à Montpellier pour les accueillir, pour les guider. Et en ce qui concerne Chaptal, il n'y avait pas de problème parce qu'il avait un oncle qui s'appelait Claude Chaptal, qui était un médecin éminent de Montpellier, qui habitait à côté de la place du marché aux fleurs, exactement aux deux rues d'Elpech. Et donc Chaptal va venir faire des études de médecine à Montpellier. Il se fera de bonnes études. Il dira carrément que les professeurs de la faculté de médecine de Montpellier sont vraiment pas terribles et qu'ils s'ennuient un peu. Mais heureusement, il a rencontré quelques personnalités intéressantes qui lui ont indiqué des livres à lire et il a travaillé pas mal par lui-même. Il soutient sa thèse en médecine qui est remarquable. Et on n'avait pas vu une thèse aussi remarquable depuis de nombreuses années à Montpellier, et il est docteur. Il est docteur en médecine en 1777. Et il est admis à la Société Royale des Sciences, bien sûr, dont son oncle Claude Chaptal fait partie. Et son oncle Claude Chaptal l'aurait bien vu comme son héritier de ses biens, mais aussi son héritier de sa clientèle. Il envoyait un praticien. Et Chaptal, lui, n'avait pas du tout envie. Il avait envie d'aller respirer l'air de la capitale, l'air de Paris. Et donc, avec son ami Cambacérès, qu'il a initié d'ailleurs chez les francs-maçons, et Cambacérès était franc-maçon lui-même, voilà que nos deux garçons partent à Paris, un peu à la découverte de la capitale. Et lorsque Chaptal est à Paris, eh bien, il va découvrir, si vous voulez, les cours d'un certain nombre de professeurs. Il va suivre les cours d'accouchement de M. Baudeloc. Il va suivre les cours de Lavoisier, de Laplace, et il va découvrir la puissance formidable de la chimie. Et Chaptal va devenir un très grand chimiste. Et c'est à Paris qu'il va rencontrer Mgr Dion, qui lui dit, écoutez, moi j'aimerais bien créer pour vous une chaire de chimie à la Société Royale des Sciences. Ce qui fait que Chaptal, au bout de 18 mois, revient à Montpellier et commence à occuper cet hôtel Guilleminé dont je vous ai parlé au début. On va libérer le rez-de-chaussée pour lui créer un laboratoire et une salle de cours. Et il va préparer ses premiers cours. Il va rester en correspondance avec Lavoisier et il va faire son premier cours pendant les états du Languedoc en 1780. Il va faire ce premier cours, il y a deux archevêques et 13 évêques, 13 ou 15 évêques qui assistent à ce premier cours. Et figurez-vous que le journal de la Généralité de Montpellier ironise un peu en disant on aurait presque dit un concile, ce premier cours de Chaptal. Toujours est-il que les évêques et les conseillers des États du Languedoc qui assistent à ce cours sont emballés, ce qui fait qu'on peut dire que la chaire de chimie pour Chaptal est quelque chose d'acquis, elle est votée sans problème par les États du Languedoc. Chaptal va se marier avec mademoiselle Lajar. C'est la fille de Jean-Baptiste Lajar, industriel qui a une usine de fabrication de mouchoirs. D'ailleurs, la famille Lajar est une famille protestante. Et Chaptal va se trouver à la tête d'une somme d'argent colossale, puisque d'abord les Lajar sont très riches, elle va apporter une dot de 70 000 livres, et ensuite il va récupérer une dot de 120, lui va récupérer un héritage plutôt de 120 000 livres par son oncle Claude Chaptal. Et Chaptal va acheter un terrain et va construire une usine de produits chimiques. Donc Chaptal devient Chaptal chercheur chimie, Chaptal enseignant en chimie, va devenir également un industriel en créant cette usine de produits chimiques. Donc, cette usine de produits chimiques va être créée exactement à La Paille, c'est-à-dire dans le quartier de l'avenue Le Pic, vous voyez, au bout de l'avenue Georges Clémenceau. Elle va se développer, elle va fabriquer de l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique, de l'acide nitrique, des alluns qui servent notamment à la ganterie, pour la mégisserie. Ça va être une des premières usines de France, hein, des premières usines de produits chimiques en France. Et puis, la révolution est arrivée et en 1799, Chaptal monte à Paris, va céder ses parts à son associé. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de son associé. Il avait comme garçon de laboratoire à la Société Royale des Sciences un certain Étienne Bérard, qui était protestant, un protestant d'Alès. Et Étienne Bérard va être son associé également dans l'usine de produits chimiques. Et quand Chaptal va partir à Paris en 1799, un peu dégoûté par la Révolution, qu'il avait d'ailleurs appelé de ses voeux, il ne faut pas l'oublier, Chaptal va vendre ses parts à Étienne Bérard, qui va continuer à faire tourner l'usine avec son fils. Et cette usine, d'ailleurs, ne pourra pas résister au milieu du 19e siècle à la concurrence des charbons, des mines de charbon qu'il y a dans le Nord. Nous, on n'a pas de charbon à Montpellier. Et donc l'usine, finalement, fermera ses portes en 1763. Et Chaptal, comme vous le savez, arrivé à Paris, va être sollicité après le coup d'État de Brumaire par Bonaparte, va être sollicité pour faire partie du Conseil d'État. Et Bonaparte va lui suggérer de préparer des textes de loi pour l'organisation de l'administration. Et rendez-vous compte, nous vivons encore sous le règne de ces textes de loi, puisque c'est les Chaptal a institué comme ça les communes avec les conseils municipaux, les départements avec les conseils généraux, les préfets. On va créer le corps des préfets en 1800. Donc Chaptal est à l'origine de cette organisation de l'administration. Il sera ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire l'équivalent de premier ministre du premier consul Bonaparte. On lui confie un deuxième texte sur la réorganisation de l'enseignement après la Révolution, mais alors là, les choses se passent moins bien parce que Chaptal est vraiment un libéral et il se trouve qu'il va préparer un texte beaucoup trop libéral pour le premier consul qui, lui, conçoit l'enseignement comme un peu une mise au pas de la population. Il veut non seulement faire des bons citoyens, il veut surtout faire des gens qui sont au service de l'Empire, et le premier lycée ouvrira à Montpellier en 1804. Et comme je vous l'ai dit lors de nos précédentes émissions, la faculté des sciences et l'université sera réorganisée dès 1808. Voilà, je crois que j'en ai dit assez sur ce trajet de Chaptal. Je ne peux pas m'étendre aujourd'hui sur les sciences, l'œuvre scientifique de Chaptal, quoique on peut rappeler quand même que tout le monde connaît ce que l'on appelle la chaptalisation, qui est le travail que Chaptal a effectué sur les vins. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'intitule « De l'art de fabriquer des vins ». Et c'est là qu'il a mis en lumière le fait que, en rajoutant du sucre à du mou, ce sucre est transformé en alcool, donc on augmente le degré alcoolique. Ironie du sort, eh bien, la chaptalisation découverte dans notre midi est précisément interdite dans notre midi alors qu'elle est autorisée dans d'autres régions de France. Voilà, je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission qui concernera le collège du pape. Nous aurons l'occasion de parler d'un grand pape, le pape Urbain V. Au revoir et à la prochaine fois.